Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Les grands débats, mais c'est aussi un débrief de l'interview politique, si vous l'avez écouté, de Marine Le Pen au micro de Patrick Roger. Avec nous pour en parler ce matin, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, vos appels 0826-300-300. Oui. Dites-nous ce que vous en pensez.
Oui, bah vous allez avoir la parole dans un instant. Ouais. Voyons avec vous. Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse. Elisabeth, comment avez-vous trouvé Marine Le Pen, en fait, ce matin, dans ses réponses?
Bah, d'abord, je l'ai trouvée plutôt bonne, pour, ouais. comme on dit dans le métier. Je trouve qu'elle était plutôt... convaincante et plutôt assez calme dans très calme dans la forme, à l'aise. Non, ça, j'étais plutôt...
Et ferme par rapport à Éric Zemmour, quoi.
Alors, j'ai ferme, mais surtout, je trouve qu'elle met l'accent, effectivement, sur ce qui est une des faiblesses d'Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit aux classes populaires. Ouais. Et ça, je trouve, même avant que Marine Le Pen le dise, je trouvais que c'était un des points faibles, pour l'instant, de son discours. Alors, peut-être que ça va changer. Si vous voulez, les questions identitaires, pour moi, sont très importantes, hein, comme pour lui. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Les gens attendent aussi qu'on leur réponde pas seulement sur le destin collectif, mais sur leur vie concrète, individuelle, leur famille, leur proximité. Et là-dessus, je trouve qu'effectivement, elle a tapé un peu là où ça faisait mal. Et puis... Il faut bien le dire, si vous voulez, quand Zemmour a commencé sa campagne et qu'effectivement il y a eu cette espèce d'emballement un peu médiatique, elle a gardé ses nerfs. Donc je dois dire,
Lydia
je trouve qu'elle s'est pas si mal sortie de l'embûche.
Oui, Lydia Guérousse.
Oui, je trouvais que Marine Le Pen avait un peu repris du poil de la bête. On l'a sentie offensive. En fait, contrairement à Éric Zemmour, Marine Le Pen, elle a fait ce parcours initiatique en politique. Elle a été élue, elle a été plusieurs fois candidate, elle sait ce qu'est la politique, elle sait la dureté. Donc c'est pour ça qu'elle a gardé son calme dans les moments les plus difficiles où tout le monde disait qu'Éric Zemmour allait passer la barre des 20% et serait au second tour et elle n'y serait même pas. Donc elle a su avec sagesse rester calme et poursuivre sa campagne. Et là dans son entretien avec vous, j'ai trouvé qu'elle appuyait sur les points de faiblesse d'Éric Zemmour avec beaucoup de justesse. C'est vrai qu'il y a une forme de brutalité qu'il est encore dans ses habits de polémiste et qui clive et qui va sur des sujets qu'on n'a pas besoin d'aller sur ces sujets-là, mais il y va parce qu'on sent qu'il a une envie de faire le buzz et que sa campagne va vivre que par le buzz. Et il a pas fait sa mue vers l'homme politique. On parle français toutes les deux, donc je comprends pas son expression. Mais je sais pas comment l'exprimer autrement. Et il y a un manque de crédibilité en fait chez Éric Zemmour, parce que avec les semaines, on s'attendait à ce qu'il devienne un homme politique plus crédible, plus rassembleur. Et en fait, il est un peu toujours enlisé avec cette image de polémiste. Et je crois que le doigt d'honneur de Marseille, mais aussi le Bataclan, et aussi les propos sur les enfants qui sont morts suite aux attaques de Mohamed Merah, ont quand même marqué beaucoup les Français.
Oui, Elisabeth Lévy, avant d'aller au 0826-300-300,
je trouve que cette histoire de mue, pardon, ma chère Lydia, c'est un peu un lieu commun, il n'a pas fait sa mue, c'est écrit dans tout le... Je ne suis pas tellement d'accord avec ça, mais surtout, quand vous dites on n'a pas besoin de parler de ces sujets, moi je ne suis pas d'accord.
Moi je pense que c'est indécent d'aller au Bataclan. Non, mais je trouve que c'est indécent.
J'ai pas terminé ma phrase.
Si
ça vous ennuie pas, je vais terminer.
Crie encore plus fort, Elisabeth.
Arrêtez de couper la parole ou j'arrête.
C'est la première fois. Sinon, vous arrêtez. Et bien, vous êtes en grande forme.
Allez, Elisabeth, allez-y.
Non, excusez-moi, vous me mettez. J'ai quand même quelque chose à dire.
Lydia, laissez parler en fait, Elisabeth.
Et vous allez apprendre.
Chacun.
Je dis sur ces sujets qui sont les sujets identitaires. D'ailleurs, je le défends aussi sur le Bataclan. Si on pense qu'il y a une guerre de civilisation, c'est devant le Bataclan qu'il faut en parler. Et par ailleurs, moi, je crois que ces sujets identitaires sont effectivement existentiels. Oui, je crois qu'effectivement, la France, dans ses mœurs, dans sa culture, est menacée. Et donc, je pense qu'il faut en parler. En revanche, je pense qu'il ne faut pas parler que de ça.
Alors, moi, je pense que les sujets identitaires sont importants. Et je pense que je les ai portés à plusieurs reprises, que ce soit dans mes engagements politiques ou à travers mes ouvrages, et j'ai quand même reçu pas mal de menaces pour ça, mais je pense qu'il y a des façons d'en parler, et il y a des moments pour en parler, et je trouve qu'aller au Bataclan au moment où des gens sont en train de prier et de rendre hommage à leur mort, ça relève de l'indécence, et ça discrédite même ceux qui portent ces sujets-là. Donc il a été totalement contre-productif au moment où il s'est rendu et faire la récupération au Bataclan.
On l'a déjà fait, ce débat. Comment vous avez trouvé Marine Le Pen ce matin, face évidemment à la candidature d'Éric Zemmour, mais même également sur ses propositions, et puis elle répète, elle est l'adversaire avant tout d'Emmanuel Macron, et veut s'adresser à travers le pouvoir d'achat et beaucoup de mesures à l'ensemble des Français. 0826 300 300,
et
Cécile.
Et c'est Arnaud qui nous appelle du Morbihan. Bonjour Arnaud.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Bienvenue.
Oui, merci beaucoup pour votre radio.
Oui. Qu'on écoute également en Bretagne maintenant, bien sûr, pas dans toute la France. On a des auditeurs partout.
Bretagne Sud.
Oui.
Donc je voulais donner mon avis en tant qu'ancien militant du FN puis du RN.
Oui.
Depuis le débat, Marine est toujours charmante, il n'y a pas de problème là-dessus, mais son discours politique est dévalorisé depuis le débat. Elle a ridiculisé tout l'appareil militant qui ne croit plus en elle. Ici, sur le Morbihan, c'est tout le monde passe chez M. Zemmour.
Ouais.
Parce qu'on ne croit plus en elle. Elle gère ça comme une boutique, alors qu'on a besoin d'enthousiasme, on a besoin de grandeur, et M. Zemmour sait apporter ça, parce qu'il va beaucoup plus loin. Elle, c'est un langage qui est déjà usé, elle fait partie du paysage politique français maintenant depuis tant et tant d'années, et surtout, elle a renié les fondamentaux de son papa. Donc, pour moi, c'est M. Zemmour qui prend la relève, parce que la France se radicalise, les gilets jaunes, il y a un tas de manifestations hebdomadaires maintenant, anti-vax, etc. Je veux dire, la France se radicalise, et M. Zemmour correspond à cette radicalisation, à mon sens, en tant qu'ancien militant du RN.
Oui, et vous, vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de gens, justement, un peu dans votre état d'esprit, c'est-à-dire qui étaient au FN, au RN, et qui vont apporter leur soutien à Éric Zemmour parce qu'il apporte une nouvelle vision, selon vous, c'est ça ?
Clairement, c'est surtout... C'est surtout qu'il colle parfaitement avec les anciens fondamentaux de Jean-Marie Le Pen, qui a toujours un écho dans les couches populaires. Non, à mon avis, Marine a voulu gauchiser son discours.
Ouais.
Elle y est parvenue. Elle a brisé son fameux plafond de verre.
Ouais.
Mais à quel prix ?
Mais est-ce que, Arnaud, je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs qui peuvent nous appeler au 0826 300 300, est-ce que c'est aussi pour elle une possibilité d'arriver au second tour et d'être encore plus proche, potentiellement, d'Emmanuel Macron et de le battre lors de la présidentielle, d'avoir cette image ?
Oui, c'est possible, étant donné qu'elle a brisé le plafond de verre, c'est possible qu'elle ait davantage de facilité que M. Zemmour, qui retombe dans les difficultés qu'a connues Jean-Marie Le Pen à l'époque, parce qu'il y a un barrage médiatique qui est clairement à gauche.
Barrage, c'est ouvert quand même, il a la parole dans beaucoup de médias, il y a beaucoup de reportages et de sujets autour de lui, quoi.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous, et je pense qu'il a un beau chemin devant lui, et tout le monde, enfin ici, sur le Morbihan et sur pas mal de départements bretons, on croit en M. Zemmour.
Oui, voilà. C'est
mon témoignage d'ancien militant RN, j'ai 30 ans de militantisme derrière moi.
Oui, et avant le FN, est-ce que vous étiez au RPR? Parce que beaucoup sont passés du RPR à une époque, en fait, au...
Non, je suis rentré directement au FN à l'époque où Jean-Marie Le Pen avait encore son bandeau sur l'œil, donc pour vous dire que j'ai une carrière de militant bien ancrée.
Oui. Merci Arnaud de nous avoir appelé et de nous écouter en Bretagne. Je sais qu'on a de plus en plus d'auditeurs un peu partout dans toute la France. On a d'ailleurs, on vous annoncera prochainement nos chiffres, en fait, record d'audience. D'un mot, Lydia Guirous et Elisabeth Lévy, et vous au 0826 300 300, si vous voulez réagir également. Est-ce que cette candidature d'Éric Zemmour va avoir aussi un impact sur le vote qui va avoir lieu le week-end prochain, cette semaine, et on connaîtra le vainqueur des LR, des Républicains.
Alors, la primaire de la droite, la primaire des Républicains, est une primaire où seuls les militants, ceux qui sont à jour de cotisation, qui ont pris leur cotisation il y a déjà... la fin c'était il y a 3 semaines, pourront voter. Donc ce n'est pas ouvert à tous et je ne pense pas que cela aura une quelconque incidence.
Non mais par exemple, mais parce que c'est vrai qu'Éric Ciotti,
dans le cas,
on disait...
J'allais venir, ouais, d'Éric Ciotti, on sent qu'Éric Ciotti il a quand même orienté sa campagne avec beaucoup de clins d'œil à Éric Zemmour, à cette droite dite droite dure par certains commentateurs. Il a d'ailleurs dit qu'il voulait faire de Laurent Wauquiez, qui était sur cette ligne qui veut sauver la civilisation, l'identité, avec un régalien très fort, dit que Laurent Wauquiez pourrait être son premier ministre s'il était président de la République. Donc on sent une volonté chez Éric Ciotti d'être un peu celui qui incarne cette ligne de droite assumée, de droite, voilà, de droite identitaire, et qui veut voilà, attirer à lui l'ensemble de ces militants qui sont encore sensibles à ces questions-là, alors que vous avez les 4 autres candidats qui sont plus des candidats de droite, centre compatibles. Mais c'est soit une stratégie de primaire, et les militants se font plaisir à l'occasion de cette primaire et ils se disent, on met celui qui représente le plus nos idées et cette droite un peu RPR, on le fait gagner, mais qui aura moins de chance face à l'autre personne qui sera au second tour.
Soit un candidat
qui pourra rassembler davantage.
Et Elisabeth Lévy, d'un mot avant de repasser au standard où il y a beaucoup d'appels.
Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même dans les militants RPR beaucoup de gens. Par exemple, là, je reçois des textes de gens qui s'appellent la droite contre Bertrand. Donc, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui sont assez zémouriens, notamment chez les jeunes militants, qui sont probablement plus zémouriens que l'électorat, je dirais. Ce qui est intéressant et ce qui risque de peut-être, en tous les cas, modifier le paysage, c'est qu'il va annoncer la création d'un parti.
C'est ça
qu'on nous annonce pour le Zénith. C'est le Zénith, c'est ça ?
Oui, le Zénith, la semaine prochaine, lundi prochain.
Dimanche.
Dimanche.
Est-ce que ça peut... Ouais. Je connais moins bien que Lydia les arcanes de LR, mais est-ce que ça peut... à créer un appel d'air de certains militants, je sais pas ce que dit Lydia là-dessus.
Il y en a certains qui sont déjà partis. C'est vrai qu'on voit dans l'entourage d'Éric Zemmour beaucoup qui sont d'anciens LR, voire même des collaborateurs d'élus LR. Et je pense à l'un de ses porte-paroles.
Dernier mot maintenant avec les auditeurs.
Oui,
Pierre qui nous appelle.
Du Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé Marine Le Pen bien. Son discours est moins abrupt qu'autrefois.
Ouais.
Quant à Éric Zemmour, je pense qu'il se présente et je souhaite qu'il n'ait aucune voix, ou très peu.
Ouais.
Parce que si ce genre de personne est président de la République, ça va être la Révolution française.
Il est trop brutal, c'est ce que vous voulez dire, quoi.
Oui, alors ça va être le chaos. Et j'espère que Marine Le Pen sera présidente de la République, pour une fois ce serait une femme, et bien ce serait très bien. Et en fait, j'ai une chose à dire importante, c'est que au sujet de M. Macron, il a donné la Légion d'honneur au président égyptien qui est un dictateur. Ça s'est fait en catimini. Il n'y a eu aucun photographe français qui a été là. Ce n'est qu'un photographe égyptien qui a mis ça en avant. Et en fait, mon grand-père a dû se retourner dans sa tombe parce qu'il a fait les deux guerres. Guillaume Bergougne, il était toulousain. Et quand on décerne une légion d'honneur à ce genre de personne... non, c'est pas... Vous savez, mon grand-père, il a fait les deux guerres. Il a fait la guerre 14-18. La seconde guerre... Il n'a pas été, il n'est pas allé au front. Il était policier à Toulouse. On les appelait les hirondelles et tous les jours, quand il pouvait, dans la nuit, il allait réveiller des juifs pour qu'ils puissent faire leurs valises et partir au petit matin avant que la Gestapo vienne les prendre. C'était la dictature aussi.
Cette Légion d'honneur vous a choqué par ailleurs. Dans un instant, merci en tout cas à vous de nous avoir appelé 0826 300 300. Vous pouvez réagir à notre autre sujet à propos d'honneur. Cette fois-ci, c'est Joséphine Baker qui entre au Panthéon parlons aujourd'hui. On va en parler avec nos invités, notamment l'un de ses fils qui sera avec nous, Jacques Pessis, et Laurent Kufferman qui a également été à l'initiative.
Et continuez de commenter sur notre question du jour. Si elle représente pour vous la résistance, la lutte contre le racisme, les valeurs républicaines ou l'égalité des chances, pour l'instant c'est la résistance. Et on vous attend au 0826 300 300.
Merci Lydia Guérousse et Elisabeth Lévy.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h23, Joséphine Baker, comme les mecs on l'appelle, entre aujourd'hui au Panthéon. Et pour en parler ce matin, Brahim, Bouillon Baker, bonjour, en tout cas. Voilà.
4B.
4B, ça fait 4B. Est-ce que vous voulez on dise Baker comme Joséphine le demandait?
Elle préférait Baker. Baker.
Bouillon Baker, voilà, c'est ça. Donc vous êtes le fils adoptif, le 7e dans la grande lignée des fils, des enfants de Joséphine Baker et auteur de ce livre, Joséphine Baker, l'universel aux éditions du Rocher. Et puis Jacques Pessis est avec nous aussi. Bonjour Jacques.
Bonjour à tous.
Journaliste Sud Radio, bien sûr, vous le connaissez bien, les clés d'une vie et écrivain, ouais. Et bien sûr, qui a écrit sur Joséphine Baker, et Laurent Kufferman, qui est essayiste, historien initiateur de la pétition Osez Joséphine Baker au Panthéon, lancée en 2019. Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Bonjour. Juste d'un mot avant sur le factuel, Joséphine Baker va donc être la 6e femme à entrer au Panthéon, en fait, aujourd'hui, alors qu'il y a 75 hommes, Félix Mathieu.
Hein. Oui, première de ces 6 femmes panthéonisées en 1907, Sophie Berthelot, elle entre avec son mari, le chimiste Marcelin Berthelot. En fait, leur famille n'avait pas accepté l'entrée de Marcelin seul. Elle voulait la famille que Sophie repose avec lui. Beaucoup plus récent, 1995, Marie Curie, physicienne, chimiste, elle entre au Panthéon, 2 fois prix Nobel. On lui doit la découverte de 2 atomes radioactifs, le polonium et le radium. D'ailleurs, elle n'avait pas survécu à ces expériences qui l'avaient irradiée. 2015, panthéonisation de Geneviève de Gaulle-Antonioz, engagée dans la résistance, la nièce du général avait été décorée par la Grand Croix de la Légion d'honneur. Déportée en 1943, elle avait aussi présidé, après la guerre, l'association ATD Carmont.
Oui, il y a eu Germaine Tillion aussi en 2015 et ensuite Simone Veil, hein, c'est ça.
Et oui, en 2018, ministre de la Santé à l'origine de la fameuse loi sur l'IVG qui avait été également d'ailleurs déportée. Hein. Elle avait perdu une partie de sa famille. Elle est inhumée aux côtés de son mari depuis 2018.
Oui, et Laurent Kufferman, ensuite, c'est vous qui avez eu cette idée il y a quelques mois de proposer Joséphine Baker. Pourquoi et au nom de quoi vous avez eu cette initiative, Laurent Kufferman?
Patrick Roger, au nom d'abord, je veux rendre à César ce qui est à César. Oui. C'est une idée de Régis Debray. Et j'avais trouvé l'idée extraordinaire et j'ai contacté Régis Debray. Oui. Et je lui ai demandé l'autorisation morale et il me l'a donnée. Puis je l'ai tenu informé au fur et à mesure du développement de cette panthéonisation. Alors pourquoi cette panthéonisation? Parce que dans un moment où chacun se replie sur un plus petit dénominateur commun, quel qu'il soit, ses origines, ses opinions philosophiques, religieuses, religieuses, son orientation sexuelle, on se trouve dans un moment où il y en a une fracturation de la nation. Et il est bon d'avoir un personnage aussi exemplaire, aussi symbolique que celui de Joséphine Baker pour nous réunir, pour nous rassembler d'abord dans ce qu'on appelle dans un pays la nation et plus largement pour rappeler notre appartenance commune au genre humain. Et Joséphine Baker, au travers de l'ensemble de ces engagements qui ont été exemplaires, montre que c'est possible. Je vous rappelle les engagements, on le fait aujourd'hui parce que c'est très important, parce que le Panthéon, c'est pas le top 50. On rentre pas parce qu'on est connu, on rentre pour l'apport civique à l'esprit de la nation. Ouais. Et l'apport civique à l'esprit de la nation, c'est dès 1939, avant même la résistance, Joséphine Baker rejoint les armées françaises pour défendre le pays dont elle n'est que citoyenne que depuis 2 ans, la République du devoir, et elle rejoint dans le sillage du général de Gaulle pour faire du renseignement au profit de la résistance de Gaulle, et ensuite, après la guerre, ouais, elle sera aux côtés de la LICRA et aux côtés de Martin Luther King pour lutter contre la ségrégation, le racisme et l'antisémitisme. Ouais. C'est une femme exemplaire.
Ouais. C'est une femme effectivement complète, Joséphine Baker, l'universel aux éditions du Rocher, hein, c'est ce que vous avez écrit, vous, Brian Bouillon-Baker. Pour les auditeurs qui n'ont pas entendu, je vous conseille et je vous recommande d'ailleurs d'écouter Les Clés d'une vie de Jacques Pessis hier soir avec vous. Vous avez raconté en fait votre vie, hein. Vous êtes un fils adoptif de Joséphine Baker, bien sûr. Qui vous avez repéré, si je puis dire,
En Algérie.
En Algérie,
hein. En 57. Ouais. Et qui a repéré un bébé orphelin, né le même jour et le même mois qu'elle. Et puis, en plus, tout éveillé, lui faisant des petits sourires, alors que les autres dormaient. Voilà à quoi se joue un destin.
Bah oui, oui, ce destin. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette entrée, en fait, au Panthéon, pour vous ? Est-ce que vous l'aviez imaginé, d'ailleurs, il y a quelques années ?
Non, on l'a pas, la famille, en tout cas, on l'a pas imaginé. On l'a jamais demandé. C'est pas notre rôle. Par contre, et ma mère, encore moins, elle aurait jamais demandé ou réclamé.
Ouais.
De toute façon, elle était déjà très fière de ses médailles.
Ouais.
Croix de guerre, Croix de la Résistance, Croix de Lorraine, Croix de Chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, c'est beaucoup plus rare. Non, mais suivre, par exemple, Laurent et son collectif, Laurent Kupferman, et le soutenir, ah bah oui, là bien sûr. Ouais. Et c'est allé très vite. Ils m'ont appelé début avril, le week-end de Pâques. Un mois et demi après, on était reçus à l'Élysée et on voyait aussi Madame Brigitte Macron qui nous a fait la surprise de nous faire une visite guidée du palais et nous a déjà annoncé quasiment, il fallait qu'on tienne notre langue pendant... Après, on a vu le président un mois et demi après, en juillet. Et jusqu'à fin août, il a fallu qu'on se taise. C'était pas facile, mais on était...
Voilà.
Mais jamais, on n'était pas du tout sûr au départ avec Laurent, vraiment, d'aller au bout.
Bon, évidemment, ça a été votre maman adoptive, vous, le fils adoptif. Mais qu'est-ce qu'elle représente le plus ? On pose, en fait, ce matin, une question aux auditeurs pour savoir, pour eux, comment ils la voient, comment ils l'aperçoivent. Hein. Est-ce que c'est, Cécile,
la résistance, la lutte contre le racisme, les valeurs républicaines, l'égalité des chances ? Pour l'instant, en tout cas, nos auditeurs parlent de cette résistance, de la résistance.
Et résistante, et n'oublions pas, aussi engagée auprès de la LICA, qui est devenue la LICRA, c'est-à-dire la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, engagée avec Martin Luther King pour les droits civiques, engagée pour la paix au Vietnam, que son pays d'origine avait incendié, pour la paix entre Israël et les pays arabes, la paix au Biafra, à l'époque un pays déchiré où les bébés mouraient par milliers. Donc, plein d'engagements. Mais il y a aussi, n'oublions pas, le côté artiste, elle s'est servie de sa notoriété pour, par exemple, pour la résistance. Elle a fait passer plein de documents secrets, parce que, en passant les frontières, on lui demandait pas souvent son passeport, on lui demandait des autographes, et puis elle a aussi récolté beaucoup de fonds pour la résistance française, et sans parler du fait qu'elle a planqué plein de résistants dans son château.
Oui, et Jacques Pessis, vous, c'est justement l'artiste hein, que vous avez bien connu, et que vous avez suivi, vous, qui suivez le milieu artistique depuis des années et des années, hein, Jacques.
C'est que moi, j'ai eu la chance de voir le dernier spectacle à Bobino, le soir de la première, la toute dernière, hélas. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'époque, on ne parlait que de l'artiste. On parlait de la danse sauvage, on parlait de J'ai deux amours. Et il y a une quinzaine d'années, quand j'ai fait ce livre, tout ce qui est aujourd'hui, ce qui fait Joséphine aujourd'hui, on n'en parlait pas. C'était pas dans l'air du temps. La résistance, oui, peut-être. Le racisme, peut-être. Et aujourd'hui, elle est parfaitement dans son époque. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'elle rentre au Panthéon. On découvre enfin la vraie Joséphine, qui est effectivement une femme unique.
Alors, si on n'en parlait pas, est-ce qu'elle-même, justement, ne le revendiquait pas aussi de cette manière ? Puis bon, c'est vrai, l'époque était, quoi qu'il en soit, aussi différente, Jacques.
Non, je crois qu'effectivement, elle se préoccupait de ses enfants, de ses combats, mais les conséquences de ses combats, elle ne les voyait pas. C'est-à-dire qu'elle était au jour le jour. Quand, et Brian le sait, elle a été obligée de quitter les Midlands, il a fallu trouver des solutions. Il fallait trouver de l'argent en permanence. Il fallait monter sur scène pour justement nourrir ses enfants. C'était sa préoccupation. L'avenir, elle ne le voyait pas. Elle défendait ses idées parce qu'effectivement, enfant, elle avait été victime du racisme, elle avait connu la misère, la guerre, elle l'avait faite parce que la France l'avait défendue. C'était pour elle, au plus profond d'elle-même, c'était ce qu'il fallait faire à l'instant T.
Ouais. D'un mot, avant de revenir aussi sur justement sa vie et ce que vous avez évoqué et ces derniers jours, ces dernières paroles, Lydia Guirousse, sur cet engagement, vous qui êtes une femme engagée, quelle image vous avez de Joséphine Baker aujourd'hui ?
L'image que j'ai de Joséphine Baker, c'est cette femme qui s'est émancipée, cette femme noire, cette femme pauvre, cette femme qui a connu le racisme aux États-Unis, qui venait d'un milieu extrêmement modeste, et je crois que c'est à l'âge de 13 ans qu'elle est partie à New York après de terribles tueries dans sa ville, à Saint-Louis. Et elle a été terriblement traumatisée, et puis elle est partie pour aller vivre sa vie et puis créer son destin, le provoquer. Et donc c'est cette femme qui a toute sa vie finalement été dans la lutte pour la fraternité, l'égalité, la liberté, mais aussi qui représente l'universalisme, en fait. Pour moi, Joséphine Baker, c'est ça, c'est l'universalisme. Et je trouve que son entrée au Panthéon aujourd'hui, c'est ce message-là qu'on doit retenir. C'est cette femme qui a voué sa vie pour défendre l'universalisme, les valeurs de la République, l'émancipation pour tous, au moment où on a des gens qui veulent nous ramener à notre couleur de peau, à notre race, à notre religion, et finalement nous enfermer. Joséphine Baker, c'est la liberté pour tous, et je crois que c'est le message qu'on doit retenir.
Je rebondis sur ce que dit Lydia, c'est la première femme noire au Panthéon. Brian Bouillon-Baker, il y a un symbole derrière tout ça.
Oui, alors, d'ailleurs, je reprécise, tout le monde dit toujours noire, n'oublions pas qu'elle avait un père blanc.
Oui.
Donc, en réalité, elle était métisse. D'ailleurs, heureusement pour elle, parce que vous savez, dans les années 20, avec la revue Nègre, les autres de la revue, tous sont repartis à New York. Elle, Paris, l'a gardée, l'a retenue, il y a eu un coup de foudre. Mais peut-être parce qu'elle était métisse. Si elle avait été noire avec des traits nés, elle serait peut-être partie. Bon, mais ça a été très fort. Mais et sinon, on peut dire que effectivement, c'était une jeune femme libérée qui est énergique et qui a fabriqué son dessin et qui est devenue très vite, à partir de la montée du nazisme et de l'antisémitisme en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, partout. Et là, elle a commencé à avoir une conscience, en fait.
Allez, on va continuer avec vous, Brian Bouillon-Baker, Jacques Pessis, également dans un instant. Et on reviendra peut-être, ce que vous avez raconté chez Jacques aussi, cette dernière soirée, vous l'aviez eue, en fait, au téléphone, je crois.
Oui.
On y revient dans un instant.
À tout de suite, et vos appels, 0826 300 300.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Justement, nous revenons bien entendu sur cet hommage, un grand hommage aujourd'hui au Panthéon de Joséphine Baker, qui rentre aujourd'hui en Panthéon avec son fils, Brahim Bouillon Baker. Voilà, ça, on est passé à 4B, fils adoptif, bien entendu, auteur de ce livre, hein, Joséphine Baker, l'universel, aux éditions du Rocher. Et puis Jacques Pessis, le journaliste Sud Radio, est avec nous, et Laurent Kupferman, qui est l'une des personnes qui a lancé cette pétition sur oser Joséphine au Panthéon en 2019.
Oui, alors il y a le Panthéon, mais il y a aussi le métro. Il va y avoir une station de métro qui va être inaugurée tout à l'heure. Vous allez y aller,
Brian Bouillon. Dans quelques minutes.
Dans quelques minutes.
Heures.
Alors, où ça et pourquoi ?
Alors, métro Gaîté, j'ai proposé au nom de la famille, à Paris.
Ouais.
Le métro Gaîté sera sous-nommé Joséphine Baker, car la rue de la Gaîté, c'est la rue de Bobineau, le dernier théâtre où ma mère s'est produite, en 75.
Ouais.
Au bout de la rue de la Gaîté, il y a la place Joséphine Baker. Et puis, le nom de ma mère et le mot Gaîté, ça colle, c'est populaire. Les gens passeront dans le métro, auront une pensée quand ils passeront à la station Gaîté à ma mère.
Oui, voilà, Gaîté, Joséphine...
tout à l'heure, à 10h, inauguration.
Tout à l'heure, et vous allez y aller. Justement, un mot de cette dernière représentation à Bobineau. Vous l'aviez eu dans les dernières heures, en fait.
Je l'ai eu, moi, au téléphone. Ouais. Jacques, lui, grand spécialiste de ma mère...
Alors, il va en parler dans
un
instant.
Lui a eu la chance d'être présent. Nous étions à Monaco, nous faisions nos études.
Ouais.
Jean-Claude Brialy avait conseillé à ma mère, il lui avait dit, non, ne fais pas venir les enfants, ils font leurs études, ils viendront fin juin, début juillet, et encore par groupe de 3-4, parce que tu es fatigué, il y a répétition. Mais je l'avais vu l'année d'avant avec ma famille à Monaco, au Gala de la Croix-Rouge, c'était plus ou moins pas le même spectacle, mais c'était un peu, il y avait des choses très comparables, mais bon, Jacques, lui, pourra vous parler, paraît-il, de cette soirée mémorable, tout comme aujourd'hui, cet après-midi, cette fin d'après-midi sera mémorable.
Merci en tout cas d'être passé ce matin dans les studios de Sud Radio, à vous, parce que je sais que vous devez aller justement pour
je vous en prie.
L'inauguration. Voilà. Oui, alors Jacques Pessis, cette dernière soirée, on ne pouvait pas savoir évidemment, que c'était la dernière soirée, mais comment était-elle sur scène ?
Il faut savoir que ce n'était pas le Bobineau d'aujourd'hui, c'était l'ancien Bobineau, et c'était la seule salle qui avait accepté d'accueillir, tous les autres théâtres parisiens ne l'en voulaient pas, et on avait un peu réduit ce spectacle de Monaco, avec moins de danseurs, moins de décors sur scène, mais c'était extraordinaire, il y avait le tout Paris, jamais on a vu autant de célébrités dans une salle que ce soir-là. Ouais. Et elle a été extraordinaire parce que moi, je me souviens de ce spectacle qui durait près de 3 heures. Elle était sur scène tout le temps avec les plumes, les aigrettes, les décors. C'était un récapitulatif de toute sa carrière. Et à la fin, il y avait un dîner au Bristol où elle était vraiment heureuse. C'est-à-dire qu'elle saluait chacun d'entre eux et elle l'annonçait sa tournée pour les années à venir. C'est-à-dire qu'elle était repartie, les adieux, on n'en parlait plus, elle était repartie pour 3-4 ans, voire plus, puisqu'on l'a redemandé dans le monde entier avec ce spectacle qui avait été créé par André Levasseur et Jean-Claude Brialy, qui étaient ceux qui avaient aidé Joséphine au départ quand plus personne ne croyait en elle.
Ouais. Et est-ce que il y avait la possibilité d'avoir de la proximité avec elle, vous qui suiviez, qui étiez en fait journaliste et puis dans les coulisses, mon cher Jacques?
Il n'y avait aucun problème. Elle allait vers vous, elle vous tutoyait tout de suite. C'était extraordinaire. Elle ne vous connaissait pas, mais vous étiez déjà son amie. Elle avait cette fraternité dont elle parlait, qui était une réalité.
Oui, oui, c'est ça. Elle était.
Et d'ailleurs, parmi ses proches, il y en avait un qu'elle adorait par-dessus tout. C'était Gilbert Bécaud. Elle ne manquait pas un de ses spectacles et elle avait une fascination pour lui. Ils se retrouvaient régulièrement.
Oui, oui. Et le public, quand il venait voir Joséphine Baker, il venait voir cet artiste ou ce personnage qui était quand même assez, assez exceptionnel, même si évidemment au début elle n'avait pas ce que vous aviez dit, hein, conscience en fait de son engagement et de l'impact qu'elle pouvait avoir.
Non, alors d'abord l'engagement, je pense qu'il est venu petit à petit avec la guerre, ouais. Et à la fin de la guerre, elle s'est dit « je dois continuer dans ce sens ouais. ». Mais le public, il allait voir l'artiste. Quand elle était à l'Olympia, il y a encore des images aujourd'hui, qu'elle faisait monter un spectateur sur scène pour danser avec lui, c'était une ovation dans la salle. Elle avait un charisme, une voix, une présence unique. On ne parlait pas, absolument pas, de la femme engagée, de la résistante. C'était autre chose, c'était deux femmes différentes.
Oui, et elle laissait de côté, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, tous ses soucis, parce qu'elle en a eu beaucoup de problèmes. Oui, c'est-à-dire qu'elle était pauvre quand elle était gamine, ensuite elle a connu la richesse, la gloire, et elle a eu des moments, en fait, terribles, quoi, aussi, de difficultés, quoi, bien sûr, notamment sur un plan financier.
Bah, d'abord, l'argent, elle ne s'en occupait pas, ça ne l'intéressait pas.
Ouais, il y avait enfin, un bon, terrible quand même,
au château des Milandes. Ouais. Elle s'en fichait totalement, elle continuait. Et je crois qu'elle ne s'en est jamais préoccupée. Ce qu'il fallait, c'était avancer. Quand il n'y avait plus d'argent, et c'était à l'époque, beaucoup d'artistes comme ça, on repartait en tournée. Piaf était pareil. C'est-à-dire qu'on trouvait toujours de l'argent, et elle était un optimiste total, persuadé que ça irait jusqu'au bout. Et la preuve, quand elle a quitté les Milandes, qu'elle s'est retrouvée dans la misère, bah, elle est quand même remontée sur scène.
Ouais. Merci beaucoup. Jacques Pessis et Brian Bouillon-Baker et Laurent Kufferman qui étaient. Et voilà, pour revenir aussi sur cette vie et la vôtre, donc, qui se croise avec Joséphine Baker, bah, vous pouvez réécouter en podcast aussi Les Clés d'une vie de Jacques Pessis, que l'on retrouve tous les soirs, évidemment, sur Sud Radio de 21h à 22h.
Et dans un instant.
Et puis le livre, hein, Joséphine Baker, L'Universel aux éditions du Rocher.
Et donc, ne manquez pas ça, restez bien rivés les yeux devant votre télévision, parce que je pense que le spectacle va être dingue et plein de magie.
Ah,
dans un instant,
ouais. Ouais.
La France à vos côtés, on va revenir sur un collectif qui veut relancer la filière laine française. C'est à suivre.
Ouais,
sur
c'est assez incroyable, d'ailleurs.
Oui,
on va dire beaucoup de choses.
Oui, plein de choses. À tout de suite.